Donc, merci de cette invitation, bonjour. Je suis directeur de la chaire CNRS, récemment nommé ici à l'HSS comme cumulant en tant que directeur d'études. Je crois qu'on m'a invité, je suis peut-être un peu l'intrus dans cette...
Pas d'intrus ici. On est tous de cette...
D'accord. Mais bon, j'ai... La raison pour laquelle je pense qu'on m'a invité, c'est parce que j'ai toujours exprimé, ces dernières années, un point de vue relativement prudent sur l'usage de l'outil informatique numérique en général à l'école, sachant que je ne suis pas du tout un audit numérique, hein, j'ai un pedigree qui est plutôt celui de quelqu'un qui s'est formé comme philosophe, intéressé à la sémantique formelle, à contact avec des communautés d'intelligence artificielle au début. Donc c'était l'intelligence artificielle des années 90 qui faisait plutôt de la knowledge representation, la représentation de la connaissance. On écrivait de longues axiomatisations pour les secteurs de la connaissance. Moi je m'intéressais à la représentation spatiale. Donc, j'ai développé des axiomatisations qui étaient par la suite reprises par les informaticiens. Sachant que tout a changé, évidemment, on fait tout ce genre de choses, on construit tout des ontologies aujourd'hui, donc il y a, on est sur un terrain qui est mouvant, aujourd'hui on cherche plutôt des algorithmes qui soient capables d'apprendre, plutôt que d'apprendre aux ordinateurs un certain nombre de représentations formelles de choses qui nous pensons être un certain secteur de la connaissance, on met les ordinateurs dans la condition d'apprendre, et donc aussi les exigences d'apprentissage pour des codeurs changent, la décomposition des problèmes change. Donc, je suis petit pedigree, évidemment, je joue un peu avec des objets comme Arduino, que j'ai programmé récemment pour représenter un certain nombre avec des LED, des phares majeurs de la côte bretonne. Donc, ça s'éteint, je ne vais pas plus loin que ça. Hein. Je travaille avec des codeurs. Là, par exemple, c'est un logiciel qu'on vient de publier en libre accès, open source, pour l'apprentissage de l'astronomie élémentaire. Donc là, je mets plutôt en position designer. Il y a un problème pédagogique particulier à résoudre. Comment permettre aux gens de comprendre certains phénomènes astronomiques qu'ils ne comprennent pas en faisant un changement de perspective. Donc c'est un logiciel qui permet certains changements de perspective. Mais je travaille avec des codeurs. Donc je parle un peu leur langue, mais en fait, cette petite mise en garde, disons, par rapport à mes compétences, des compétences relativement limitées sur les codages, je n'ai qu'une main. Alors ce qui m'intéresse, c'est de parler très rapidement de ce que j'appellerais l'espace des problèmes pour la question de l'apprentissage de l'informatique à l'école, et je suis content d'entendre qu'on commence à faire très sérieusement par rapport à ces dernières années une distinction qu'on n'entend pas souvent entre l'apprentissage de l'informatique et l'apprentissage du numérique en général. On a vraiment mélangé les deux choses pendant un certain temps, c'est bien qu'on soit vraiment. Ça va de soi pour la plupart des gens qui sont ici, mais ça ne va pas de soi pour les grands publics et pour la plupart des décideurs. C'est important de garder ça. Et de nouveau, j'ai exprimé sur des questions qui concernent la numérisation de la vie, un point de vue qui est relativement prudent, inspiré du principe de précaution. J'ai écrit un ouvrage dont le titre est un peu retentissant est contre les colonialismes numériques. Le titre n'est pas contre les numériques, je ne suis pas du tout contre le numérique, mais c'est contre l'idée qu'on doive numériser tout ce qu'on peut numériser. Donc, les systèmes de vote, la lecture, l'apprentissage, etc. Alors, pour définir l'espace des problèmes, je vais juste te donner un exemple d'une chose qui m'a semblé une bonne pratique, une chose que j'observais, en faisant ce travail, j'observais un certain nombre d'écoles, là, en l'occurrence, une école de l'État du New Hampshire, aux États-Unis, donc un État qui est riche, qui investit beaucoup sur l'école publique. Vous savez, aux États-Unis, l'école publique est un facteur de mobilité. Vous avez une bonne école publique, vous attirez des gens jeunes qui ne sont pas encore très riches, qui seront contents d'envoyer leurs enfants à une bonne école qui leur permet de faire des économies de 1 500-2 000 $ par mois par rapport à l'école privée. Donc, Là, on parle d'un État qui est riche, qui investit beaucoup sur l'école publique et qui est donc à équiper ses écoles publiques, certaines de ses écoles publiques, de la technologie de pointe et qui a développé des programmes pour l'apprentissage, pour l'interaction, l'apprentissage des technologies. Alors, on parle donc de technologie dernier cri, des derniers modèles, des dernières tablettes, des derniers ordinateurs. Mais contrairement à un plan qui est aujourd'hui lancé en France et sur lequel je m'exprimais toutes mes réserves, on n'est pas sous l'obsession de l'idée d'équiper chaque élève avec une tablette. Donc, il n'y a pas cette idée d'une tête, une tablette, une tête, un ordinateur. On est sur un modèle plus classique. On a un chariot de tablettes et on a une salle d'information. Et le chariot de tablette a permis de résoudre le problème de la tablette, parce que les enfants veulent des tablettes. C'est un peu ça le problème. Les enfants sont gourmands, ils sont friands, ils aiment bien la nouvelle technologie et les technologies dernier cri. Et je présente ça comme un exemple pour deux raisons. D'abord, une raison de politique publique. Si vous sortez du modèle une tête ou une tablette, vous pouvez faire des grosses économies. Là, par exemple, on parle de 50 tablettes sur une population de 450 étudiants, donc un 9e de la dépense qu'on aurait dans le cas dans lequel on équipait un enfant avec une tablette. Rien de la dépense, ça signifie que vous pouvez renouveler 9 fois votre parc informatique, une fois par an, pour arriver à la dépense que vous aurez si vous aviez un enfant avec une tablette. C'est une grosse économie qui permet d'avoir tout le temps de l'informatique dernier cri. Ce qui est bien parce que une des difficultés dont je vais parler dans un instant de toute étude d'évaluation de l'impact des technologies sur l'apprentissage est l'obsolescence rapide du matériel. Donc, c'est très difficile de faire des études longitudinales. C'est très difficile d'établir si les choses que vous faites marchent ou pas parce que le matériel se renouvelle à une vitesse telle que vous ne pouvez pas comparer par exemple deux classes à 4 ans de distance. Pratiquement impossible. Les seules études qui existent sont des études anciennes, parce que les matériels avaient une obsolescence qui était un peu plus longue. Donc la première raison pour laquelle je voulais parler de cette étude des cas, la Ray School, est justement qu'avec un projet, un design sur l'usage du temps, ce dont je vais parler à l'instant, on peut faire aussi des économies d'échelle qui permettent d'être toujours en contact avec la dernière technologie disponible. Ceci n'est pas forcément un but en soi, d'être en contact avec la dernière technologie disponible. Mais si vous avez cette idée qu'il faut être en contact avec la dernière technologie disponible, tant qu'à faire, essayez de moduler la dépense pour permettre un usage rationnel de vos ressources. Design, c'est la clé de ces problèmes. Là, il y avait un design du temps qui était très structuré. On utilisait l'informatique là où l'informatique était indispensable. On utilisait le numérique là où le numérique était indispensable. Dans les modèles une tête, une tablette, on a tendance à envahir les apprentissages par des supports technologiques qui ne sont pas forcément adéquats. Alors que là, par exemple, on utilisait les tablettes pour appréhender l'usage de certains outils communs, donc ce qu'on a défini tout à l'heure, l'apprentissage du numérique en tant que devenir des consommateurs responsables, des usagers responsables, savoir distinguer les sources d'information. Donc on mettait les mains à la pâte sur les Google Docs, ça n'aurait pas été mon choix, mais bon, c'était des choix spécifiques, et on appréhendait l'usage de ces outils, donc on parle d'enfants de CM1, CM2. Et en même temps, donc, vous êtes une responsable numérique, mais aussi apprentissage de la programmation. Et là, on avait des enfants de 8-9 ans, 9-10 ans, qui faisaient du Scratch. Donc, on est Scratch, donc c'est un petit logiciel qui permet de simuler une programmation visuelle et de construire des petits objets animés, par exemple, qui plaît beaucoup aux enfants et qui donne le béaba de la pensée algorithmique qui est à la base de toute programmation. Mais de nouveau, tout ça face à un contexte dans lequel, par exemple, on investissait beaucoup sous la lecture, sous d'autres types de lecture. L'enseignant lisait un livre en classe à haute voix chaque semaine, un livre différent chaque semaine. Lisez avec savoir, les enfants écoutaient. Donc, c'est là pour dire qu'on a le droit de focaliser nos énergies sur l'apprentissage du numérique sans aller sur les plates-bandes d'autres instruments d'apprentissage. Mon idée, c'est qu'il faut un peu respecter une biodiversité des instruments d'apprentissage. Alors, pour ce qui concerne, par exemple, plus spécifiquement la question de l'apprentissage du codage, qui est notre sujet, bon, les ressources sont multiples. Là, j'ai juste montré des exemples que j'aime bien, que je connais un peu mieux. Vous avez des exemples très français, comme les modules de la main à la patte, 1, 2, 3, codé. Les Playful Coding, qui est un projet de l'université de Aberystwyth. J'espère prononcer correctement. Et je vous conseille d'aller regarder le travail de Hannah Dee, qui est cette digital evangelist, coding evangelist, qui a un programme très très raisonné et super pour l'introduction du codage. Et ce sont des programmes, des projets d'ailleurs, qui sont intéressants parce que ils font la part des choses. Donc, de nouveau, il y a un moment à contact, les mains à la patte, avec l'interface numérique, mais il y a aussi un moment un plug, déconnecté. C'est aussi un autre module qui est, je le trouve très très bien, et donc il existe une version française, Computer Science Unplugged. Donc, qui permet de développer des petites activités de compréhension de la pensée algorithmique et des principes mathématiques qui sont à la base du codage, sans toucher à l'ordinateur. Et c'est un point important, à mon avis, parce que ça permet d'un côté de libérer l'apprentissage de l'informatique du fantasme de l'ordinateur, et ça permet aussi d'imaginer plus rapidement un transfert des compétences informatiques vers des sujets qui ne sont pas forcément des sujets liés à la production d'objets numériques. Mon but ici, aujourd'hui, c'est tout simplement de suggérer l'importance de l'apprentissage des principes de l'informatique est beaucoup plus grand que celui de produire une population de personnes capables de construire des objets numériques. C'est une façon de penser qui mérite d'être cultivée à l'intérieur de la société, et qui permet d'envisager aussi, dont on voit, je pense très bien, la possibilité d'émerger vers des comportements plus complexes au niveau social. Je ne peux pas dire l'exemple simple, c'est celui de mieux programmer ses recettes de cuisine, ce qui est tout à fait une possibilité, enfin, vous êtes capable avec les recettes des cuisines sont des algorithmes, essentiellement. Donc, vous améliorez ce qui est possible, mais aussi dans l'interaction sociale, il y a des choses à prendre. Donc, il y a des programmes comme ça. La France vient d'en introduire un de façon relativement massive. Le Royaume-Uni l'a fait en initiative de 2014, mais depuis un moment, on voit des expériences à gauche et à droite. Je vous montre aussi rapidement le fait que même si on doit utiliser des objets informatique, on a aussi intérêt à utiliser des objets difficiles d'accès. Il ne faut pas tout faciliter. Là, je parle de deux plateformes comme Arduino ou comme Raspberry Pi qui vous obligent à faire des choses et qui ne seront pas vraiment des objets passifs d'interaction avec des ordinateurs qui sont déjà préformatés à partir. Et bon, on a introduit des projets et des programmes. Et la question qui doit intéresser tous ceux qui s'intéressent des politiques publiques, et notamment les ministères de l'Éducation nationale, est-ce que ça marche? Est-ce que ça a marché? Et c'est là la deuxième partie courte de mon lecture posée. Est-ce que ça marche? C'est-à-dire, on introduit massivement des ordinateurs, on introduit massivement des tablettes, on introduit massivement des projets d'apprentissage de l'informatique. Est-ce que ce genre de choses marche? Donc on a des études pour l'introduction des ordinateurs, des technologies en général à l'école et tout de l'OECD de l'année dernière qui est plutôt sceptique à cet égard. C'est trop tôt, je pense, pour pouvoir dire quoi que ce soit au sujet de l'introduction de l'informatique. Mais, n'empêche, je pense qu'il faut garder cette question en tête chaque fois qu'on introduit un nouveau projet pour l'école. Rendre toujours les projets, mettre toujours dans les projets une partie qui concerne les indicateurs du succès, de la réussite ou de la non-réussite de ces projets. On ne peut pas se permettre de faire juste... on n'est pas une start-up gigantesque, l'essai n'est pas une start-up qui jette un projet à l'eau et puis on va voir si ça flotte ou ça flotte pas. Comme je dis, c'est très difficile de le dire maintenant, parce que c'est trop jeune. Il faut juste introduire une culture de l'évaluation du projet dès le départ. C'est très difficile, en général, ça va être difficile, parce que c'est difficile d'évaluer des études, d'avoir des études longitudinales. Si ces études sont basées non seulement sur les aspects abstraits du programme, donc l'apprentissage des éléments abstraits du codage, de la pensée algorithmique, mais s'ils sont basés sur la capacité d'interagir avec certains logiciels interfaces qui évoluent trop rapidement pour pouvoir mener ce genre d'évaluation. Bon, les points qui me semblent très importants est que pour pouvoir déterminer si ce genre de projet marche ou ne marche pas, il faut rentrer dans une considération que j'appellerais une considération philosophique de la normativité qu'il y a derrière la notion de réussite. Et donc, tout ça a l'air un peu philosophique et mystérieux, mais c'est très simple, en fait. Si on veut déterminer si un certain projet a marché ou s'il n'a pas marché, il faut savoir ce qu'on cherche de ce projet. Là, je vais définir trois profils de résultats possibles d'un projet d'introduction de codage à l'informatique dans les écoles primaires ou secondaires. Premier profil, ce que j'appelle citizen coder. Le citizen coder est mon objectif, mon agenda secret. Moi, j'aimerais bien voir un développement des compétences informatiques ou de codage qui se répand dans la société indépendamment de fantasmes technologiques. Ce que j'entends par là, c'est simplement le développement d'une culture générale de l'informatique qui serait un peu comme la culture mathématique ou comme la culture classique et qui fait de nous tous, des sujets, des citoyens plutôt, capables de résoudre des problèmes complexes. C'est complexe en utilisant des outils qui sont relativement complexes. Donc c'est un citizen coder, ils ne sont pas des gens qui vont par la suite vraiment coder. Ce sont des gens qui ont, des citoyens qui ont compris à fond les principes de la pensée algorithmique, de la décomposition des problèmes par exemple, et qui seront capables de répercuter cette connaissance dans plusieurs secteurs de leur vie. Si Citizen Coder est votre objectif pédagogique, il faudrait des mesures particulières pour pouvoir établir si votre programme d'introduction de l'informatique a eu le succès que vous espérez. Un deuxième profil est Start-upper. Start-uppers sont des... c'est l'idée qui est aujourd'hui dominante dans la représentation publique de l'apprentissage de l'informatique. L'idée que on ne s'intéresse pas au codage comme on pourrait s'intéresser à la culture classique. Ça ne fera pas de nous des citoyens meilleurs. Ça fera d'une certaine partie d'entre nous des gens capables de résoudre, de changer l'essor de la nation, d'améliorer le profil économique de la nation. Là, je crois que tous les programmes d'introduction de l'informatique aujourd'hui dans les systèmes d'enseignement sont centrés sur cette idée. Cette idée de, dans les discours publics, hein, je ne veux pas dire le ministère de l'Éducation nationale, mais je pense que vous pouvez me concéder que dans le discours public, c'est ça l'idée, ou dans certains discours politiques, c'est ça l'idée qui domine. Donc on regarde la Silicon Valley, on regarde les modèles économiques de la Silicon Valley, sur lesquels, moi je ne suis pas sociologue ni économiste, mais je suis allé regarder un peu la littérature, et on a mixed reviews. Sous le modèle des startups, le modèle économique. Évidemment, il y a un succès spectaculaire, et qui est un succès spectaculaire sur la queue de la distribution, évidemment. Ça ne peut pas être du tout la norme. On ne peut pas créer une armée de startups qui ont du succès, c'est même dans l'idée de la startup, parce que la plupart d'entre elles, c'est vraiment morte, un taux de survie très très bas. Ce qui est peut-être une chose souhaitable. Je ne suis pas économiste, je ne veux pas rentrer dans la logique qui est. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que ces modèles, ou cette image, ce n'est pas vraiment un modèle, cette image a beaucoup influencé l'idée de l'introduction de l'informatique dans plusieurs programmes d'enseignement. Troisième possibilité, beaucoup nous allons dire, informed consumer, les consommateurs éclairés. Qui est différent du premier, c'est par le citizen code. Donc, le consommateur informé, c'est quelqu'un qui se défend un peu devant la complexité informatique. Il se défend, il n'est pas censé contribuer, c'est juste c'est une partie de l'apprentissage du numérique qu'on fait aujourd'hui à l'école. Donc on vous apprend qu'il y a certaines sources qui sont plus fiables que d'autres, qu'il faut regarder les algorithmes. Donc, il y a un magnifique bouquin de Dominique Cardon, Aquarelle des algorithmes, qui présente. Les quatre styles algorithmiques aujourd'hui plus importants dans les systèmes que nous utilisons le plus souvent, comme Google, Amazon, Facebook, les algorithmes réputationnels, situationnels, etc. Et donc une certaine compréhension de la même superficielle, mais disons, pas complètement superficielle, de la nature des algorithmes, nous permet de comprendre, en tant que citoyen, si les choix que nous effectuons et les informations que nous recherchons sont suffisamment éclairées. Attention. Comprendre si nous trouvons des informations fiables et si nous faisons des choix basés sur ces informations qui sont des choix éclairés. Donc, pour refaire le parcours à rebours, là je termine ma présentation, donc je ne pense pas que les choses à faire pour obtenir les consommateurs informés, les citizen coders et les startups soient les mêmes du point de vue de l'enseignement. Je parlerai ici seulement de ce dernier cas, donc le cas de consommateurs informés. Aujourd'hui, les 95% des usages d'Internet sont des usages qui passent par des interfaces commerciales qui sont connues de tout le monde, Google, Facebook, Amazon, enfin un certain nombre très limité d'interfaces qui, de la part du grand public, qui justement ont des problèmes d'opacité. Pour la plupart d'entre nous. Vous n'êtes pas informaticien, vous ne savez pas ce qui se passe derrière, pourquoi il vous a suggéré une certaine chose plutôt qu'une autre. Je ne pense pas qu'il y ait un apprentissage spécifique, ciblé, pour résoudre les problèmes de la capacité de s'orienter dans un univers informationnel qui est géré par des algorithmes. On peut évidemment apprendre la complexité algorithmique, et ça vous mettra sous vos gardes lorsque vous êtes devant un site comme Amazon et qui vous recommande une panoplie de bouquins. Mais à mon avis, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le type d'apprentissage qu'on fait sur un objet spécifique a très peu de chances d'être généralisable à d'autres objets. C'est une donnée très importante sur les apprentissages qui nous viennent des sciences cognitives. Les apprentissages ont tendance à être difficilement généralisables. Et c'est très difficile de faire un apprentissage général qui vous permette de résoudre tous les problèmes de fiabilité de l'information. Alors, pour faire un exemple très simple, moi j'ai un problème comme celui de, je sais pas, une maladie de mon chien. Je ne suis pas véto, j'ai aucune idée de ce qui se passe d'un organisme d'un chien, mais j'aime plutôt classique. Donc je fais des études d'assertatique, philosophie. Et au bout de 2 heures de travail intense, j'ai trouvé l'article scientifique important qui me dit exactement ce qu'il faudrait faire, quel genre de constellation pathologique est importante pour que je parle avec un certain connaissance de cause avec mon vétérinaire. Donc, C'est un exemple un peu exagéré, mais je suis un chercheur. J'ai fait des longues études. Et dans ces études, pour moi, c'était très important de devenir sensible à des indices réputationnels. C'est même la nature de mon travail. Enfin, je suis attentif à tous les indices réputationnels. Je n'ai pas de temps à perdre. Et lorsque je vois un site, je sais tout de suite de voir si c'est un site fiable. Et je le sais, pas parce que j'ai fait un cours de fiabilité de site, je l'ai pas fait, mais parce que j'ai une certaine culture générale. Et aussi, j'étais formé comme chercheur. J'ai appris cette capacité de préparer les indices réputationnels qui me font faire un tri rapide sur la qualité de l'information. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire un tuto de codage pour résoudre les problèmes du citoyen informé. Je pense qu'il faut créer des experts. On croit que ce soit. Des gens qui développent des expertises. Philologie grecque, vétérinaire. Et cette expertise n'est pas immédiatement réexploitable, mais la capacité à repérer des indices réputationnel qui va avec la formation d'une expertise est la clé pour résoudre les problèmes du consommateur informé. Donc je pense qu'il faudrait vraiment faire un effort dans le système scolaire pour insister sur les apprentissages complexes indépendamment de l'informatique ou à côté de l'informatique. Pour les deux autres types de cibles, donc développer des citizen coders ou des start-upers, les normativités sont très différentes. Et là, je crois que c'est partie de la discussion d'aujourd'hui de parler plutôt de citizen coders ou de start-upers. Donc j'arrête là mon propos et je voulais juste lancer la balle dans les camps de M. Bureau.
Merci beaucoup.